Les podcasts du Collège de France.
Bon, je pense qu'on va commencer tout doucement, comme le début du cours consiste en un peu des rappels de l'épisode précédent. Donc merci à ceux et celles qui ont survécu à mon cours numéro 1, d'être revenus au cours numéro 2. Et bienvenue à tout le monde. Ce deuxième cours, est consacré à la suite de notre exploration des problèmes d'impureté quantique et de l'effet Kondo dans ces différentes manifestations, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, dans des contextes assez divers, qui vont depuis les motivations historiques dans les années 60-70 jusqu'à une véritable jouvence du sujet jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, je vais commencer le cours d'aujourd'hui, comme je pense qu'à la fin du premier cours, c'est quand même allé un peu vite. Ça, c'est un défaut de jeunesse de vouloir mettre trop de choses dans un cours. Je vais commencer le cours d'aujourd'hui en revenant sur les grandes lignes du cours précédent. Et puis, on va avancer en douceur de cette manière. Avant de commencer, je voudrais annoncer que le séminaire d'aujourd'hui sera donné par Serge Florence, qui est ici, donc qui est à l'Institut Néel à Grenoble, et qui va nous parler de manière tout à fait complémentaire au cours lui-même, de réalisations très récentes d'effets Kondo non conventionnels, non liquides de Fermi par exemple, dans différents types de nanostructures. Donc la partie cours, il y a pas mal de choses un peu anciennes dedans, la partie séminaire, il y aura beaucoup de choses plus modernes. Quelques informations pratiques aussi, donc en principe tous les documents de cours, diapos et audio sont mis en ligne sur le site de la chaire. Vous n'avez pas besoin de noter ça, il suffit d'aller sur Google. Ce sont les seules notes de cours que je distribuerai, par paresse ou par négligence. Il y aura peut-être un jour un livre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres notes que les slides. Et si vous voulez recevoir par email les informations qui sont liées au cours, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà sur la liste de diffusion que j'envoie chaque semaine pour rappeler en particulier qui est l'orateur du séminaire. Mais pour ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas sur la liste, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous mettrai dessus. Bien, alors, en quelques diapos, rappel sur les épisodes précédents. Donc, je vous rappelle que le cours précédent était consacré à un modèle qui est très simple à formuler, qui est le modèle d'Anderson, dans lequel on a donc un bain d'électrons de conduction, une sorte d'atome du théoricien à un niveau avec une corrélation répulsive U qui interdit ou qui défavorise les doubles occupations, et puis un terme d'hybridation qui couple ce bain d'électrons de conduction et ce niveau atomique. On avait vu que dans le cas très simple de l'atome isolé, cet atome du théoricien montre le phénomène de blocage de Coulomb, c'est-à-dire que l'occupation, ou la charge, si vous voulez, sur l'orbital atomique, en fonction du niveau atomique, qui dans un dispositif nano sera par exemple une tension de grille, dans le cas d'un atome magnétique dans un métal est dicté par la chimie, eh bien cette charge a des marches, qui sont des marches abruptes à température nulle, qui sont un peu élargies à température finie, de sorte qu'on a trois régimes, un régime où l'orbital est complètement occupé, un régime où elle est complètement vide. Ces régimes ne sont pas particulièrement fascinants puisqu'ils correspondent à un état fondamental non dégénéré. Quand on va appliquer V comme une perturbation, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis, il y a un plateau intermédiaire ici, où la charge est bien bloquée à 1, mais où l'état fondamental de l'atome isolé est dégénéré. Il peut être soit spin vers le haut, soit spin vers le bas. Et comme on l'a vu la dernière fois, dans ce cas-là, la perturbation V est une perturbation extrêmement singulière qui lève cette dégénérescence, et le fondamental devient un état singulier où le spin d'impureté est écranté par les électrons de conduction. Et puis, entre ces plateaux de charge, il y a des régimes de transition avec des fluctuations de charge fortes où trois états sont impliqués, qui s'appellent, dans le contexte des matériaux, le régime de valence mixte, parce que la valence de l'atome peut également fluctuer. Bien, alors on avait vu que si on se place dans le plateau de charge, où on a en gros un électron sur l'orbital atomique, et qu'on va à la limite de U très grand, on peut se ramener à un modèle effectif, qui est tout simplement, qui ne décrit que le secteur de basse énergie de l'espace de Hilbert, donc le secteur avec, dans le cas simple qu'on avait considéré, un électron sur l'île et un électron dans le réservoir d'électrons de conduction. De manière plus générale, on peut le faire pour une bande d'électrons de conduction, et donc c'est le sous-secteur de l'espace de Hilbert où il y a toujours un électron sur l'orbital atomique. Et dans cette limite, eh bien, on peut se ramener par transformation canonique ou par diagonalisation du problème jouet qu'on avait regardé la dernière fois, un hamiltonien effectif qui est un hamiltonien d'échange dans lequel la constante d'échange ou couplage Kondo est donnée par le carré de l'élément de matrice d'hybridation divisé par le dénominateur d'énergie. Donc dans la limite symétrique, hein, qui est le cas où on est exactement au centre du plateau de charge, ce couplage Kondo est 8 V carré sur U, dans le cas le plus général, il est donné par ça. Et si je ne suis pas exactement au centre du plateau de charge, il y a également des termes de diffusion potentielle dont l'expression est ici. Alors je reviens sur cette notion de cas symétrique. Si je me place exactement au milieu ici, à epsilon d égale moins u sur 2, qui est un cas sur lequel je reviendrai assez fréquemment dans la suite, eh bien, vous voyez qu'il y a une dégénérescence supplémentaire dans le spectre, qui est cette fois une dégénérescence des deux états excités, l'état doublement occupé et l'état vide ont la même énergie, qui est 0, l'état fondamental à énergie moins u sur 2, et il y a donc une symétrie parfaite entre particules et trous, puisque je peux penser à l'état doublement occupé comme un état sans trous. Il y a donc une parfaite symétrie particule-trou, et ça a toutes sortes de conséquences. Par exemple, les fonctions spectrales de l'orbital d'impureté sont des fonctions paires de la fréquence, puisqu'il y a le même type d'excitation. Les excitations de type particule et les excitations de type trou sont miroirs l'une de l'autre. Alors, on avait également vu que quand on se plaçait dans ce régime Kondo, on pouvait approcher ce problème par théorie de perturbation en J, que cette théorie de perturbation était hautement singulière. C'est les fameux logarithmes sont dans le papier de Kondo original, et que pour traiter cette théorie de perturbation, il fallait forger un outil qui était le groupe de renormalisation, à propos duquel, en fait, problème à propos duquel le groupe de renormalisation avait été pour une large part introduit en physique de la matière condensée. Et quand on regardait les équations de flot à l'ordre le plus bas, eh bien, on voyait que ce flot de renormalisation nous emmenait en couplage fort, au moins dans le régime antiferromagnétique du problème Kondo. Alors, il y a également un régime ferromagnétique où le couplage transverse spin-flip meurt avec l'échelle et il y a ici une ligne de points fixes qui est paramétrée par le couplage d'Ising, JZ, qui sont des points fixes qui ont également leur intérêt, qui correspondent au couplage Kondo ferromagnétique et peut-être Serge en parlera un petit peu dans son séminaire. Mais pour tout le reste du cours, on va s'intéresser exclusivement au régime Kondo antiferromagnétique où on est emmené en couplage fort par le flot du groupe de renormalisation. Alors on avait vu que le couplage Kondo dépendant de l'échelle devient grand à une échelle caractéristique qui est cette fameuse température Kondo qui a ceci d'intéressant et d'important qu'elle est exponentiellement faible en fonction de la constante de couplage. D'une manière plus générale, si je ne suis pas exactement au centre du plateau de charge, en utilisant l'expression de J de tout à l'heure, eh bien, vous voyez qu'on a cette dépendance-là dans l'interaction et la position du niveau. Image physique du point fixe. En fait, le petit problème jouet qu'on avait diagonalisé la dernière fois, qui est un problème où on a tout simplement une orbitale atomique et une orbitale d'électrons de conduction, est une très bonne approximation d'ordre zéro, je dirais, du point fixe, puisque le point fixe se trouve en couplage fort où on a véritablement formation d'un singulet. Et l'image de ce point fixe, c'est que, en l'absence de couplage Kondo, on a notre spin d'impureté et nos électrons de conduction qui ne se voient pas, qui ne parlent pas l'un à l'autre. En présence du couplage Kondo au point fixe de couplage fort, on veut former un singulet ici entre les électrons de conduction et l'impureté. Et du coup, ce site devient bloqué pour les autres électrons de conduction, ce qui fait que les ondes de bloc des autres électrons de conduction doivent éviter ce site. Et donc, vous voyez, j'ai dessiné ce train d'onde ici qui serait une onde de bloc pour un électron de conduction qui voit ce singulet comme étant décalé d'un déphasage exactement pi sur 2 de l'onde bleue. Et c'est ça le fameux déphasage de pi sur 2 du problème Kondo au point fixe de couplage fort. On avait vu que si on regarde toujours ce petit problème jouet, la fonction d'onde du fondamental, c'est la superposition de deux termes. Un terme qui est ce singulet qui forme l'écrantage avec une grande amplitude et un terme qui contient un mélange qui correspond à un mélange avec les états doublement occupés qui sont en fait les états virtuels qui donnent le couplage V carré sur U Évidemment, ce terme a une petite amplitude, mais il introduit dans la fonction d'onde fondamentale la possibilité de fluctuation de charge, ce qui va avoir des conséquences profondes, vous allez voir dans la suite, sur la destruction du blocage de Coulomb par l'effet Condot. Bien, alors, donc ça constitue en gros le résumé des épisodes précédents, ou du moins d'une partie du cours précédent, et maintenant on va entrer dans des choses que je n'ai pas encore traitées au cours précédent. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé principalement de l'orbitale d'impureté, comment elle était écrantée par les électrons de conduction, et je n'ai pas beaucoup parlé, sauf dans les derniers dessins, de ce qui arrivait à ces électrons de conduction en présence de la formation de ce singulet. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces électrons de conduction? Alors, d'un point de vue théorique, mathématique, on peut introduire leur fonction de Green. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un problème qui n'est pas invariant par translation, puisqu'on a un problème d'impureté. Donc, la fonction de Green n'est pas juste une fonction de l'impulsion K des électrons de conduction, c'est une fonction de K et K', puisque c'est un problème qui n'est pas invariant par translation. Et d'une manière très simple, on peut voir que cette fonction de Green, c'est celle des électrons en l'absence de l'impureté, plus un terme qui fait intervenir le carré de l'élément de matrice d'hybridation et l'amplitude, la fonction spectrale, pardon, la fonction de Green de l'orbitale d'impureté. Alors comment est-ce qu'on démontre cette relation? C'est très simple. On veut calculer ce G K K' en interaction, disons, et on a tout simplement dans l'hamiltonien un terme qui change un électron de conduction de moment K en un électron sur l'impureté, D, hein, et qui arrive avec une amplitude VK. Et donc vous voyez que tout simplement, ce qu'on a ici, c'est que le propagateur complet KK' des électrons de conduction, c'est quelque chose qui est égal au propagateur en l'absence d'hybridation, plus, comme toute l'interaction est sur l'orbitale d'impureté, ce terme-là, où ceci serait le propagateur tire T que je dessine ici, serait la fonction de Green complète en interaction de l'orbitale atomique, et puis ensuite il faut reconvertir cet électron en un nouvel électron de conduction de moment K'. Donc ici j'ai K, ici j'ai K', ici j'ai un VK et un VK', et cette formule suffit à calculer la fonction de Green des électrons de conduction. Vous voyez qu'on obtient exactement la formule qui est ici, par ce simple petit raisonnement diagrammatique. Ceci, si vous le voyez d'un point de vue théorie de la diffusion, ça veut dire que la matrice T de diffusion des électrons de conduction sur l'impureté est tout simplement donnée par le carré de l'élément, enfin par le produit des éléments de matrice d'hybridation fois la fonction de Green sur l'orbitale atomique. Donc, c'est une quantité à un corps de l'orbitale atomique qui nous donne la matrice de diffusion. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, je dirais, assez commode à utiliser, puisqu'on a besoin pour calculer les propriétés de scattering des électrons sur l'impureté uniquement d'un calcul de fonction de Green à un corps. Alors, une petite remarque. Donc, je peux bien sûr, comme d'habitude en théorie de la diffusion, introduire un déphasage, qui est en gros l'argument de cette matrice T. Donc, le déphasage est ici. Ici, il y a le module de la matrice T. On va voir un petit peu plus tard qu'on peut aussi dire ce qu'est le module de la matrice T. Donc, je vais le préciser par la suite. Et vous voyez que, sans faire aucun calcul, il est bien clair que, dans le cas particule trou symétrique, eh bien, à cause du fait que T doit être purement imaginaire, à cause de la symétrie particule trou, ce déphasage vaut pi sur 2. Bien, alors, pour calculer la matrice T, il faut savoir dire quelque chose sur cette fonction de Green de l'orbitale d'impureté. Je vais donc vous parler un petit peu plus en détail de la structure de cette fonction de Green. Alors ça, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois. Je vous avais dit que finalement, la fonction spectrale de cette orbitale d'impureté, eh bien, on pouvait l'aborder par une approche de type liquide de Fermi, problème à n corps, assez standard, dans la mesure où, si on intègre tous les électrons de conduction, la dynamique de l'orbitale d'impureté est entièrement spécifiée par un problème dans lequel j'ai le problème sans interaction, qui correspond à un niveau élargi, l'étalier virtuel de Friedel, avec une certaine largeur gamma, et puis que toutes les interactions sont encodées dans une self-énergie qui va corriger cette fonction spectrale par rapport au simple modèle du niveau élargi de l'étalier virtuel. Donc mathématiquement, ça s'exprime comme ça. Ça, c'est une formule qui n'est valable que dans le cas de la limite de très grande largeur de bande du bain d'électrons de conduction, qui est une limite que je vais souvent considérer dans la suite, puisque ce cours se place dans le contexte des impuretés magnétiques ou des nanostructures, où cette approximation est très bonne. En revanche, plus tard, ou dans d'autres cours, d'autres années, on considérera ce type de problème Kondo dans des environnements qui sont des environnements autocohérents, et à ce moment-là, la structure à basse énergie du bain d'électrons de conduction devient importante. Donc, retenez simplement que les formules que j'écris ici supposent cette limite de très grande largeur de bande et de bande d'électrons de conduction plate, ce qui est également le cas intégrable du modèle d'Anderson à une impureté. Donc vous voyez, cette formule me dit que la fonction spectrale est caractérisée à basse fréquence par un décalage de la position du niveau atomique, par cette formule ici, et une renormalisation de la largeur de cette résonance. Bien, donc si je regarde cette fonction spectrale à très basse énergie, je vois qu'il s'agit... Donc, qu'est-ce que c'est ces deux quantités qui renormalisent ça par rapport au système libre? Eh bien, c'est la partie réelle de la self-énergie à fréquence nulle, et puis ce poids Z, qui, on le verra sur les liquides de Fermi dans deux cours, s'interprète comme le poids spectral des quasi-particules du problème, dans cette description de liquide de Fermi local, et c'est ce poids Z qui renormalise la largeur de la résonance. Donc si je regarde cette fonction spectrale à basse énergie, vous voyez qu'en gros c'est une forme lorentzienne qui est centrée autour de ce niveau D renormalisé, qui adopte une largeur qui est également renormalisée donc par ce coefficient Z qui va être en fait essentiellement le rapport de la température Kondo à la largeur de la résonance gamma, et puis que le poids total de cette résonance est d'ordre Z. Alors, encore une fois, si je regarde le cas symétrique, les choses sont plus simples, puisque vous voyez qu'à ce moment-là, à cause du fait que cette fonction doit être une fonction paire, eh bien, epsilon d tilde, le niveau renormalisé doit être 0. Donc, la self-énergie doit compenser exactement epsilon d. Et donc, vous trouvez tout simplement que la valeur de la fonction spectrale à fréquence nulle, dans le cas symétrique, c'est 1 sur pi gamma, c'est-à-dire que la valeur de cette fonction spectrale était complètement inchangée par les interactions. Elle reste égale à sa valeur, à la position du niveau lié virtuel en l'absence d'interaction. C'est 1 sur pi gamma. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire en dehors de ce cas symétrique? Là, j'ai donc établi la valeur de ce AD de 0, qui est très important pour comprendre le scattering. Je l'ai établi dans le cas symétrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière plus générale? Eh bien, si vous reprenez la formule précédente et que vous développez maintenant à basse fréquence sans vous placer dans le cas symétrique, vous voyez que l'argument de GD est donné par cette formule ici. Delta, c'est le déphasage que j'ai introduit tout à l'heure, puisque la matrice T, c'est V carré GD, module de V carré GD essentiellement. Et donc, vous voyez qu'à partir de cette formule, vous pouvez calculer non seulement, vous pouvez calculer en fonction du déphasage le module de GD et donc le module de la matrice T. Donc, finalement, tout calcul fait, c'est très simple, vous trouvez qu'à basse fréquence, dans le cas d'une bande très large, eh bien, la fonction de Green s'exprime entièrement de cette manière. Ça, c'est le phase shift et ça, c'est son module. Et la fonction spectrale vaut de manière générale cette formule-là, sinus carré delta sur pi gamma. Toutes ces formules sont strictement valables uniquement à fréquence nulle et à température nulle, puisque je n'ai pas pris en compte les corrections en température, en T carré, qui apparaîtraient dans la self-énergie, par exemple dans la partie imaginaire, et qui changeraient la largeur. Donc tout ça est vrai à fréquence strictement nulle et à température strictement nulle. Et vous voyez que si vous insérez ici delta égale pi sur 2, vous retrouvez le 1 sur pi gamma de tout à l'heure, que j'avais établi en utilisant juste la symétrie particule 3. Alors cette formule donc nous permet de connaître complètement, en fonction d'un seul paramètre, qui est le déphasage delta, la matrice T à basse fréquence et à basse température. Je ne vous ai pas encore dit ce que c'était que ce déphasage delta, sauf dans le cas symétrique, au point fixe de couplage fort, où on sait qu'il vaut pi sur 2. Mais on n'a pas encore obtenu sa valeur d'une manière générale, et vous verrez, ça va arriver bientôt. Mais restons pour l'instant juste avec ce paramètre delta qu'on ne connaît pas. Eh bien, en utilisant la relation qui est encore au tableau ici, vous pouvez maintenant, comme vous connaissez la matrice T, vous pouvez calculer la densité d'état des électrons de conduction au site d'impureté. Et si vous faites ce calcul, tout simplement à partir de la formule de tout à l'heure, vous trouvez qu'elle est réduite par rapport à la densité d'électrons de conduction de ma bande libre par un facteur 1 moins sinus carré delta. Alors ça veut dire que, plaçons-nous par exemple de nouveau dans le cas symétrique Kondo, comme delta vaut pi sur 2, eh bien vous voyez que cette densité d'état des électrons de conduction est complètement supprimée au point fixe de couplage fort. Et ça, ça correspond bien à l'idée qu'il faut épuiser les électrons de conduction au site d'impureté pour exactement écranter l'impureté. Donc la poussée de la résonance Kondo, que l'on avait montré la dernière fois dans la fonction spectrale, correspond au creusement d'un trou d'écrantage dans la densité d'état des électrons de conduction. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la résonance Kondo pousse quand je baisse la température dans ma fonction spectrale du niveau D, donc ça ce serait deux températures différentes, et ça c'est AD de oméga à basse fréquence, je dessine le cas symétrique, et bien dans la densité d'état des électrons de conduction, qui est un truc très plat au départ, il se creuse progressivement un trou qui va aller exactement à zéro dans le cas symétrique. Alors, dans le cas asymétrique, ce déphasage n'est pas exactement pi sur 2, donc qu'est-ce qui vaut? Alors, dans le cas, toujours, d'une bande plate de très grande largeur, on peut relier exactement ce déphasage à température nulle et fréquence nulle à l'occupation de l'orbital d'impureté, par une relation très simple, qui est tout simplement écrite ici, delta égale pi sur 2 fois l'occupation, donc en particulier pi sur 2 quand n égale 1. Et ça, c'est une règle, c'est une relation très remarquable quand vous y réfléchissez, puisqu'elle relie deux quantités qui ont une nature physique très différente. Cette quantité à gauche, elle caractérise la physique de basse énergie. Elle caractérise les excitations au voisinage du point fixe de couplage fort. Elle est complètement dépendante de la physique de basse énergie seulement. L'occupation complète de l'orbital, c'est quelque chose qui fait intervenir toutes les énergies occupées. Hein, vous la calculeriez, par exemple, en intégrant la fonction spectrale depuis moins l'infini jusqu'au niveau de Fermi. Donc c'est une relation assez extraordinaire qui relie un paramètre de la théorie de basse énergie à une quantité qui est une quantité qui fait intervenir toutes les énergies du problème. C'est l'analogue pour les problèmes locaux de ce qu'on va découvrir, de ce dont je parlerai un petit peu au cours 4, qui est le théorème de Luttinger pour les liquides de Fermi. Alors, dans ce contexte, et dans le contexte d'une manière générale de la diffusion sur les impuretés, cette relation porte le nom de règle de somme de Friedel, puisque c'est Friedel, dans les années 50, qui a découvert ce type de relation, plus généralement que juste dans le cas de ce problème-là, hein, et qui, bien évidemment, l'a utilisé dans toutes sortes de contextes de diffusion des électrons dans les alliages. Donc c'est une relation tout à fait remarquable dont on peut donner une preuve non perturbative, une preuve générale, qui est assez belle, et j'espère qu'à la fin du cours, j'aurai le temps de prendre 5 minutes pour vous donner cette preuve, qui est très simple en fait, mais qui est assez subtile. J'espère que j'aurai le temps d'y arriver, c'est pas sûr, sinon je le mettrai dans les notes. Bien, donc supposons pour acquis cette règle de somme de Friedel, pour l'instant. Et continuons notre exploration de la diffusion des électrons de conduction sur les impuretés. Donc maintenant, on connaît la matrice T, on devrait être capable de dire quelque chose sur la manière dont l'impureté affecte la résistivité des électrons de conduction. Alors pour ça, on peut utiliser un formalisme très simple, qui est la formule de Kubo pour la diffusion des électrons de conduction sur une impureté, et on trouve tout simplement que la conductivité due aux impuretés, eh bien, c'est proportionnel à cette intégrale qui fait intervenir la dérivée de la fonction de Fermi, ça en gros c'est parce que c'est ça les électrons qui sont accessibles pour faire de la diffusion, fois le temps de transport, le temps caractéristique de collision, et l'inverse de ce temps de caractéristique de collision n'est autre que proportionnel d'une part à la concentration d'impuretés, évidemment, quand elles sont diluées, et d'autre part la partie imaginaire de la matrice T. Ça, c'est quelque chose qui, en théorie des collisions, s'appelle le théorème optique, qui est un classique de la théorie de la diffusion. Alors vous voyez que si vous utilisez tout ça, tout s'exprime en fonction de cette fonction spectrale, et au bout du compte, on obtient la formule suivante pour la résistivité d'impureté, et je vous demande de vous arrêter un petit moment sur cette formule. Alors, cette formule, elle contient la résistivité d'impureté en fonction de la température au dénominateur. Je l'ai écrit sous la forme une constante divisée par la résistivité qu'on veut calculer. Et cette constante ici, c'est ce qu'on appelle la limite unitaire de résistivité. C'est celle qu'on obtient dans le cas maximal de diffusion où le phase shift et le déphasage est pi sur 2. Et puis, vous voyez qu'elle fait intervenir cette intégrale sur les énergies où la matrice T, ici, pardon, le temps de transport ici, est donné par l'inverse de la fonction spectrale. Donc retenez bien ici qu'il y a l'inverse de la fonction spectrale, parce que tout à l'heure, on va voir une formule pour la conductivité en transmission, où il y aura juste la fonction spectrale ici, et non pas son inverse, et pourtant, ça sera aussi une conductance, c'est-à-dire quelque chose qui est qu'un 1 sur une résistance. Donc c'est une formule assez marrante. Je ne suis pas sûr qu'elle contienne absolument tous les processus, mais pour au moins ce cours ici, pour l'instant, elle me suffit. Alors explorons un petit peu cette formule, d'abord à température nulle. Donc vous voyez que si je suis à température nulle, seuls les électrons de conduction exactement à oméga égale 0 peuvent contribuer dans cette affaire. J'ai un pic delta, ceci est un pic delta à température nulle, et donc ça sélectionne tout simplement la fonction spectrale à oméga égale 0, t égale 0, c'est ce qu'on vient de calculer, et donc vous obtenez immédiatement que la résistivité d'impureté, c'est la limite unitaire fois sinus carré delta. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, en principe, si les dieux de la chimie étaient avec nous, eh bien, ça veut dire qu'on serait capable de prédire quelle est la résistivité d'impureté à température nulle, simplement connaissant la valence de l'atome placé dans son milieu, hein, puisque la valence de l'atome va changer un peu, évidemment, et même peut-être beaucoup, quand on va le mettre dans sa matrice d'électrons de conduction. Mais la limite unitaire, on la connaît. Si on connaît la concentration d'impureté, eh bien, en principe, on connaît complètement la résistivité d'impureté à température nulle. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, si je regarde des énergies et des températures qui sont beaucoup plus petites que la largeur de bande U, etc., ce qui est sûrement le cas dans le cas des impuretés dans les métaux, eh bien, tout doit obéir à des lois d'échelle. Et ces lois d'échelle ne font intervenir que la température condo. En particulier, la fonction spectrale ici devient une fonction d'échelle de deux variables réduites qui sont la fréquence sur la température condo et la température sur la température condo. Ces lois d'échelle sont valables lorsque oméga, T et TK sont tous petits devant un cut-off de haute énergie, disons la largeur de bande, mais évidemment dans des rapports qui sont quelconques. Il y a des limites où ces arguments vont vers zéro, vers l'infini de ces fonctions d'échelle. Alors ceci implique, comme vous le voyez simplement en le mettant dans cette expression, que la dépendance en température de la résistivité d'impureté elle-même, normalisée à la limite unitaire, doit obéir à une fonction d'échelle universelle de Tk sur T, que vous pouvez calculer directement si vous connaissez celle de la fonction spectrale. Bien, alors, tout ça, c'est la théorie. Et donc, comment ça marche? Est-ce que vraiment, on voit ça dans les expériences? Et il ne faut pas oublier, quand on aborde ce sujet, que tout ce que je viens de raconter là a été élaboré, je dirais, conjointement avec des investigations expérimentales dans les années 60-70. Donc les choses se sont faites ensemble. Et même si, comme je l'ai expliqué, comme c'est bien connu, l'observation de la remontée de résistivité à basse température est un phénomène connu depuis le milieu des années 30, avec ses expériences de Debord, de Haas et autres en Hollande, eh bien, il n'était pas complètement clair avant le calcul de Kondo que ces phénomènes étaient dus aux impuretés magnétiques. Donc voilà une courbe historique que j'ai déjà montrée la dernière fois avec un abstract de l'article particulièrement simple. Donc ce problème a eu une première jouvence dans les années 60. Et voilà un article qui est assez souvent cité, qui constitue une démonstration expérimentale, je dirais, qu'effectivement, ces phénomènes de remontée de résistivité sont liés à la présence d'impuretés magnétiques. Donc Myriam Saracik, encore une production de Bell Labs, qui a fait la chose suivante. Donc elle étudiait des alliages qui contiennent une concentration connue en fer. Alors, concentration connue en fer, ça va probablement faire rigoler les gens qui font des films mésoscopiques. Disons une concentration qui, à l'époque, était considérée comme proche de 1%. Et elle le plaçait dans des, plaçait ces impuretés de fer diluées d'1% dans des alliages qui étaient des alliages niobium-molybdène avec un certain rapport de niobium et de molybdène. Et par des mesures magnétiques, elle pouvait calculer, elle pouvait mesurer le moment magnétique de ces atomes de fer placés dans cette matrice, puisque bien évidemment, il ne faut pas s'imaginer que le moment magnétique du fer va rester identique à celui de l'atome isolé quand je le place dans une matrice d'électrons de conduction. Alors ces mesures montrent qu'il faut une certaine concentration de molybdène pour commencer à générer un moment magnétique. Hein. Si on est en dessous, ah c'est chouette, j'ai oublié l'échelle, donc ça c'est formidable, si on est en dessous de 0,4, vous pouvez deviner, ça c'est 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, si on est en dessous de 0,4, eh bien il n'y a pas de moment magnétique. Et voilà la résistivité de ces alliages en fonction de la température, mesurée pour ces différents alliages, et vous voyez qu'effectivement, le minimum apparaît juste au moment où le moment magnétique apparaît ici. Là, il n'y a pas de minimum ou tout juste là, et puis le minimum commence à apparaître, il se développe très vite, en fait, avec la concentration d'impuretés. Donc je crois que cette expérience-là, et probablement d'autres au même moment, peut-être à Orsay, je ne connais pas toute la littérature, ont convaincu vraiment que c'était les impuretés magnétiques qui étaient responsables de ce phénomène de minimum de résistance. Alors pourquoi est-ce que ça se développe très vite, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que ça, on le comprend mieux quand on se souvient du calcul de Kondo. Eh bien, la résistivité du métal, ça va être un terme d'impureté de diffusion élastique, un terme qui vient du log de Kondo, disons qu'on est à des températures plus grandes que Tk, et puis un terme de phonon, on a T5. Le terme de phonon, évidemment, c'est lui qui gagne ici. Et donc, vous voyez que quand vous regardez où est le minimum de cette expression, il est comme concentration d'impureté à la puissance 1 cinquième, ce qui est une puissance particulièrement petite, et donc c'est pour ça que ce minimum se développe rapidement. Enfin, la température du minimum augmente rapidement. Oui. Oui, enfin là, on est à 32 K. Hein. Peut-être là, il y a de la supra. Peut-être qu'il y a trop d'impuretés magnétiques pour les... Bon. Bonne question, je ne sais pas. C'est vrai, le niobium. Mais enfin, bon, de toute façon, c'est à ce régime qu'on s'intéresse, disons, pour le cours d'aujourd'hui. Alors, il y a d'ailleurs une note added in proof, là, dans cet article, qui est assez drôle, qui dit qu'une théorie récente par Jun Kondo prédit le minimum de résistivité. Donc, vous voyez comment les choses se faisaient quand même bien ensemble à ce moment-là. C'était toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, le scaling en fonction de T sur Tk. Alors, ça, c'est un sujet un petit peu délicat. Je crois que ça, c'est à peu près le mieux qu'on peut trouver dans la littérature des années 70. C'est un papier assez cité aussi de Loram et Tal. Ceux qui font des supra-OTC connaissent bien Loram pour ses travaux sur la chaleur spécifique des supra-OTC. Ben, à l'époque, il a aussi fait des très beaux travaux apparemment sur les alliages Kondo. Et ça, c'était un effort pour essayer de mettre toutes ces courbes sur une courbe d'échelle. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut. On peut faire beaucoup mieux maintenant avec les films mésoscopiques, je crois. Je pense que Serge vous parlera peut-être un peu de ces questions de scaling en T sur Tk. Ça, c'est une courbe expérimentale. Et ça, c'est le calcul théorique par Théo Costi et collaborateurs dans un très bel article, très détaillé, comme on en écrit rarement de nos jours, ce qui étudie tous les phénomènes de transport dans le problème de Kondo d'impuretés diluées par le groupe d'anormalisation numérique dont Olivier Parcollet vous a parlé la semaine dernière. Alors, dans cet article, vous trouvez la résistivité... Le pouvoir thermoélectrique, la conductivité thermique, etc. etc. Enfin, c'est vraiment un article très utile et qui a beaucoup de citations, bien qu'il soit dans le Journal of Physics Condensed Matter. Dernière chose qu'on peut vouloir regarder, et qui est beaucoup plus délicate en fait, c'est la valeur de la résistivité elle-même à température nulle, qui était censée devoir obéir à cette magnifique relation R unitaire, sinus carré delta. Alors évidemment, pour avoir la moindre chance que ce sinus carré, pardon, de pi nd sur 2, pour avoir la moindre chance que cette formule ait une pertinence quelconque pour un vrai alliage, il est certain qu'il faut déjà se placer dans le cas un peu plus réaliste d'un métal de transition qui a quand même 5 orbitales d. D'accord ? Donc le dénominateur 2 de la règle de somme de Friedel, c'est sûr qu'il faut déjà le changer par 2 fois 2L plus 1, où L vaut 2 pour un métal de transition. Donc ça devrait me donner limite unitaire sinus carré de pi n, qui serait la valence de l'atome, divisé par 10. Alors, est-ce que ça marche? Bon, en première approximation, ça marche à peu près, puisque si vous voyez, si vous parcourez la série des métaux de transition, vous avez une espèce de courbe en cloche, donc à ce niveau-là, ça marche pas mal. Ça ne marche pas exactement bien, parce que le maximum ici semble plutôt être au chrome, et pas au manganèse, qui a 5 électrons D, où devrait se trouver ce minimum. Donc ça marche à peu près qualitativement, ça ne marche pas dans les détails, ce n'est pas forcément extrêmement surprenant, parce qu'il est clair que quand il s'agit d'une vraie impureté, d'un vrai atome de fer ou de cobalt dans une matrice métallique, dans notre petit modèle d'Anderson, on a oublié plein de choses. Alors voilà des choses qu'on a oubliées, par exemple. On a oublié la dégénérescence orbitale, on a oublié le fait qu'il y a des levées de champs cristallins, hein, tous les niveaux ne sont pas dégénérés, on a oublié le fait qu'il y a d'autres interactions que l'interaction répulsive de Coulomb. Il y a des interactions de Hund, qui est ce J ici, hein, qui favorise les alignements de spin, et puis il y a des interactions assez horribles qui permettent de respecter l'invariance par rotation, et dont j'ai d'ailleurs découvert, bien qu'on les utilise beaucoup dans nos propres travaux, qu'elles avaient été, au moins dans ce contexte, en grande partie introduites dans cet article de Caroli et Fredkin à propos de l'étude de l'effet Kondo. Donc, ce n'est pas tellement étonnant que cette relation magique marche, disons, seulement qualitativement. Bien, donc tout ça, c'était des expériences des années, disons, 60-70, et ça serait un cours quand même très incomplet si je ne mentionnais pas que ce sujet de la diffusion par les impuretés magnétiques dans les métaux a vraiment eu une espèce de renouvellement, de jouvence très récemment dans le contexte des études expérimentales sur les fils mésoscopiques. Alors évidemment, ce type d'étude présente toutes sortes d'améliorations et d'avancées remarquables par rapport à ce qu'on pouvait faire dans les années 60 à 70, à toutes sortes de niveaux. D'abord, on peut faire certains types de mesures qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut se placer dans un régime où la taille, la longueur de ces fils est plus petite que la longueur de cohérence de phase, faire des mesures de localisation faible, de magnétorésistance, et en déduire le temps de cohérence de phase. Donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup exploré dans ce contexte assez récemment, au SPEC, dans le groupe de Cointronics d'une part, et puis à Grenoble, par Samina Layard, Bauerlé et leurs collaborateurs. On peut aussi faire, ça c'est une spécialité du groupe de Cointronics, des mesures dites mesures relax ou des mesures de distribution en fonction de l'énergie, hors d'équilibre, des électrons. Ça c'est un aspect des choses, donc des nouvelles mesures. On peut aussi, évidemment, fabriquer ces fils avec des techniques qui n'étaient pas accessibles dans les années 70 et en essayant de maîtriser l'implantation des impuretés magnétiques. Donc, tout ça a conduit à un renouvellement du sujet, et je pense qu'il est correct de dire que les choses ont commencé il y a une quinzaine d'années dans un article qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est cet article de Mohanty, John Walla et Webb, qui montrait que le temps de cohérence de phase dans plein de fils mésoscopiques d'or, en l'occurrence, semblait saturé quand on allait à basse température. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui viole pas mal les lois de la physique, puisque, en principe, quand on va à température nulle, le scattering inélastique, la diffusion inélastique devrait disparaître, et donc la phase, le temps de cohérence de phase devrait diverger. Donc la saturation du temps de cohérence de phase à basse température, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Donc pourquoi cette saturation du temps de cohérence de phase, nouvelle physique, cinquième force? Alors, en fait, je pense qu'après ces études très soigneuses, détaillées et inventives dans ces différents groupes, il est maintenant complètement clair qu'une bonne partie, mais il y a des experts dans la salle, donc je ne vais pas faire un cours là-dessus, je veux juste le mentionner, qu'une bonne partie de ces effets est largement due à la diffusion par les impuretés magnétiques et qu'en fait, on avait un peu sous-estimé, jusqu'à ces mesures, la capacité qu'ont les impuretés magnétiques en très faible concentration, jusqu'à des concentrations qui sont quasiment imbattables, en achetant même les meilleurs fils, à produire de la diffusion de phase, du scattering inélastique. Alors, comme je le disais, il y a plein de références là-dessus. C'est un sujet qui a été très actif au début des années 2000, Donc, j'en ai sûrement oublié plein. Il y a ces belles expériences dans le groupe de Quantronics. Celles-là sont plutôt des expériences de magnétorésistance pour remonter à tau phi. Il y a ces expériences de type mesure de la distribution des électrons hors d'équilibre. Et puis, il y a des jolis papiers théoriques, en particulier ces deux articles de Zarand, Zawadowski et collaborateurs, et puis dans le groupe d'Hakim Roche, sur le calcul du temps de cohérence de phase. Donc voilà un exemple de ce comparaison entre des... Et puis il y a les expériences donc, du groupe de Grenoble. J'ai mis que deux références, mais il y en a plein. Donc voilà un exemple de calcul de l'inverse du temps de cohérence de phase en fonction de T sur TK. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Voilà, non, je voulais d'abord montrer ça. Donc en fait, pour calculer 1 sur tau phi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas vraiment le temps ici, mais pour calculer 1 sur tau phi, il y a une manière de faire qui est de faire tout simplement la différence entre le taux de diffusion total, qui, on l'a vu tout à l'heure, est proportionnel à la partie imaginaire de la matrice T, et puis le taux de diffusion élastique, qui, assez classiquement, est le module carré de la matrice T. Donc cette formule très simple vous permet de calculer 1 sur tau phi. Alors vous voyez immédiatement ici, nu, c'est juste la densité d'état. Et vous voyez immédiatement ici que ceci ne viole pas les lois de la physique, c'est bien quelque chose qui va tendre vers zéro, donc tau phi va diverger à température nulle. En effet, tout à l'heure, on a vu que cette quantité, c'était sinus carré delta, et on a vu que le module de T, c'était aussi sinus delta, donc à température nulle. Donc si je fais la différence ici, je vais me retrouver avec sinus carré delta moins sinus carré delta, ça va être zéro. Donc c'est bien une quantité tau phi qui diverge à température nulle, mais le point, c'est qu'elle diverge très, très lentement. Donc 1 sur tau phi en fonction de T sur TK, ça c'est les calculs de groupe de normalisation numérique. Et donc vous voyez, c'est une fonction qui a une sale tendance à augmenter très 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 lentement et puis finalement à descendre à des températures qui sont TK ou une fraction de TK. Hein? Or dans ces fils, en particulier à ma connaissance ceux de Saclay, eh bien dans ces fils les TK sont quand même assez bas. Donc en fait on est toujours dans ce régime, d'où la saturation. Alors il y a une formule qui est en fait une formule un peu empirique, hein, qui... s'appelle la formule de Nagaoka-Sulle, qui n'est pas exactement une formule exacte, mais qui fit très bien cette loi ici. Vous voyez, c'est une dépendance en 1 sur constance plus log carré, d'où la lenteur de la chose. Voilà. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais c'est des expériences assez remarquables, et je pense que Serge en parlera un petit peu dans son séminaire. Bon, alors, il me reste une vingtaine de minutes pour vous parler d'un autre sujet qui est une autre jouvence de l'effet Kondo. Et ce contexte est aussi permis par la physique mésoscopique et permet de sonder l'effet Kondo dans une géométrie complètement différente de celle du scattering des électrons de conduction, où au contraire on garde la transmission à travers quelque chose qui est une impureté Kondo artificielle. Alors, cette exploration de l'effet Kondo en transmission, hein, donc où je regarde un objet localisé et je fais passer des électrons à travers, au lieu de faire de la diffusion d'électrons par l'impureté, ce sujet n'a pas commencé avec les points quantiques. Hein. C'est un sujet qui, en fait, remonte aussi aux années 70 avec des travaux sur les anomalies de conductance tunnel. Et en particulier, c'est un article d'Applebaum qui avait montré qu'effectivement, la physique de l'effet Kondo en transmission était importante pour expliquer les conductances tunnels à travers une impureté magnétique. Mais il faut bien dire que ce sujet a été complètement renouvelé par l'étude des points quantiques. Et donc, l'idée est la suivante. Donc, je vous ai parlé un tout petit peu de points quantiques la dernière fois. C'est la capacité qu'on a de fabriquer par gravure des dispositifs dans lesquels on découpe une petite île métallique, une petite île dans un gaz d'électrons 2D, qui est délimité par des grilles métalliques et qui est connecté à deux gros réservoirs. Alors, on peut faire ça dans différentes géométries, donc celle qui est dessinée ici, hein, et puis on peut faire ça aussi dans des géométries verticales, qui, par certains côtés, sont mieux contrôlables. On peut contrôler dans ce dispositif toutes sortes de choses. On peut contrôler la transparence de ces barrières tunnels entre les réservoirs et la goutte en utilisant des tensions appliquées ici. On peut contrôler le potentiel chimique ou la tension, le potentiel électrostatique de la goutte en appliquant une tension de grille en dessous. Et ça, c'est dans ma modélisation le contrôle de epsilon d. Et puis, on peut bien sûr mettre une tension entre le drain et la source pour étudier le système hors d'équilibre en faisant passer un courant. Hein, donc, ce sont des systèmes contrôlable. Quel rapport avec les impuretés Kondo? Ça, je l'avais un petit peu mentionné la dernière fois. Dans la limite extrêmement idéalisée, où je peux considérer que l'espacement de niveau sur le point est très grand, et où je peux retenir un seul de ces niveaux, eh bien, ce problème va être décrit, au moins en première approximation, par un Hamiltonien qui est l'Hamiltonien du point quantique, qui va ressembler à mon Hamiltonien d'atome du théoricien, avec U, l'énergie de charge sur le point, et puis des barrières tunnels qui font passer les électrons du réservoir vers le point. Alors là, il y en a deux. Il y a le réservoir gauche et le réservoir droit. Mais ce n'est pas tellement grave, parce que finalement, le point s'hybride à la combinaison paire ou une combinaison linéaire particulière. Donc on est quand même dans une situation d'effet Kondo à un canal. Bon, donc, ces systèmes devraient réaliser, lorsque la charge sur le point est impair, et qu'on a donc la possibilité de fabriquer un spin 1,5, ou plus élevé, mais demi-entier, qui va avoir une dégénérescence, qui va donner un fondamental de l'île dégénérée, on devrait voir de l'effet Kondo dans ce système, ou une manifestation de l'effet Kondo, qui est donc la capacité des électrons dans les réservoirs à écranter ce spin effectif sur mon point quantique. Alors, pour ça, donc, il faut le type de géométrie. On peut considérer ce problème dans différentes géométries, mais un type de géométrie assez standard dans ce domaine, c'est de regarder, comme je le disais, la transmission à travers ce point. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer ici aussi. C'est pas compliqué. La conductance va de nouveau être donnée par une sorte de formule de Kubo, où on a E carré sur H, et puis la limite de ce corrélateur courant-courant entre le point gauche, entre le réservoir gauche et le point. Ça, ce serait la transparence de cette jonction ici. Et vous voyez que le courant, c'est quelque chose qui fait intervenir un électron de conduction et un électron sur le point, puisque je passe à travers cette barrière tunnel. Et que, en conséquence, quand je calcule ce corrélateur courant-courant, eh bien, je vais faire apparaître la fonction de Green, de nouveau, de l'orbital atomique. Et donc, on obtient une formule ici, qui donne la conductance en fonction, de nouveau, de la fonction spectrale du point. Pour calculer la conductance de ce dispositif, il suffit d'utiliser la loi d'addition des résistances en série, et on aura donc la conductance totale qui va être donnée par cette formule-là. Alors, on peut s'arrêter un instant devant cette formule et la comparer à la formule de la résistivité de tout à l'heure. Et vous voyez que c'est quand même assez extraordinaire pour la raison suivante. La conductance, ici, c'est donc finalement donnée par une sorte de formule de Landauer, mais généralisée à un système en interaction dans laquelle la transparence de la barrière va être précisément la fonction spectrale de l'orbital atomique, du point quantique. Mais tout à l'heure, on avait trouvé que la conductivité due aux impuretés était donnée par une formule essentiellement similaire, mais où c'était 1 sur la fonction spectrale qui apparaissait. Donc c'est assez rigolo de voir que, finalement, la conductance et la résistance, si vous oubliez le fait que c'est 1 sous une intégrale, et donc ça, ce n'est pas exactement l'inverse de ça, évidemment, mais néanmoins, il est quand même vrai que si vous tracez ces deux fonctions en fonction de T sur TK, elles ont en gros la même allure. Donc c'est un cas où la conductance en transmission ressemble à la résistivité d'impureté. Bon, c'est quand même assez drôle, je trouve. Alors ça, c'est une formule qui est donc la conductance d'équilibre. Quand je mets la tension entre le drain et la source, entre les deux réservoirs, infinitésimale. Évidemment, on voudrait bien généraliser, d'une part, la formule, et d'autre part, le calcul de cette quantité au cas hors d'équilibre, où il y a une tension entre le drain et la source. Hors d'équilibre, mais dans un régime stationnaire, quand même, quand on fait passer un courant stationnaire. Alors ça, c'est un problème difficile, qui est l'objet de recherches actives et actuelles. La génération de la formule existe dans un article assez cité de Mir et Wingreen il y a déjà un bon bout de temps. En utilisant le formalisme de Kellisch, on peut généraliser cette formule et obtenir une expression pour DIDV en fonction de V. Mais le calcul dans ce formalisme de Kellisch est une autre affaire. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de calcul exact, même s'il y a différentes approches numériques d'autre part et théoriques approchées d'autre part, du calcul de G de V pour le modèle d'Anderson. Il existe des solutions exactes par Saller, par Andrei, dans des cas un peu plus simples. Bon, alors, continuons néanmoins avec l'exploration du cas d'équilibre, donc de cette formule qui est ici, et utilisons ce qu'on a vu précédemment au cours 1 sur cette fonction spectrale pour essayer de prédire comment cette conductance doit se comporter, cette conductance en transmission. Alors, il y a déjà une limite qui est très simple, qu'on peut explorer facilement à travers cette formule, qui est la limite de haute température. À très haute température, alors très haute devant gamma, essentiellement, eh bien, on va pouvoir considérer que toute la physique de l'effet Kondo est absente, puisqu'on a tué tous les processus qui contribuent à l'effet Kondo. Et en première approximation, très grossière, on peut remplacer la fonction spectrale par l'expression qu'on avait établie au premier cours, qui est simplement la fonction spectrale de l'atome isolé, avec les deux transitions atomiques que j'avais discutées la dernière fois. Alors vous prenez ça, vous le mettez dans la formule de la conductance, et vous trouvez cette très belle formule ici, qui pourrait être simple, a néanmoins pas mal de physique. Donc ce que j'ai dessiné ici, c'est l'occupation de l'île en fonction de εd, qui est, vous pouvez penser à εd comme la tension de grille, pour une certaine valeur de U et de la température assez basse. Et ce que vous voyez ici, c'est l'escalier de Coulomb, quand même pas mal élargi par la température. Je ne me suis pas placé dans un régime de très basse température parce que ça ne serait pas juste. Et vous voyez que la conductance, elle présente ces deux pics ici, exactement à l'endroit des transitions de charge, c'est-à-dire des fluctuations de charge, c'est-à-dire des régimes de valence mixte. Donc ça, c'est normal, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est qu'on ne peut faire passer des électrons que quand la charge peut fluctuer. Donc voilà les pics du blocage de Coulomb. Ça, c'est le blocage de Coulomb. Et maintenant, on a calculé non seulement la charge, mais en plus la conductance. Et c'est vrai que la conductance ressemble en gros à la dérivée de l'escalier de charge, disons grosso modo. Alors vous pouvez aussi étudier la dépendance en température. Donc cette fois, il s'agit de trois températures différentes, chaude, plus froide, encore plus froide, pour cette conductance. Et vous voyez que la dépendance en température est très différente si vous êtes au voisinage du pic de conductance ou au milieu. Si vous êtes au milieu, le blocage de Coulomb vous assomme, évidemment, et cette conductance est exponentiellement supprimée en fonction de la température avec l'énergie d'activation à laquelle vous vous attendez. Donc, dans le régime symétrique, moment local, juste au milieu ici, cette théorie, cette limite simple, prédit que la conductance doit s'écrouler quand on baisse la température. En revanche, sur les pics de blocage de Coulomb, c'est l'effet inverse. Cette hauteur monte, en fait, comme 1 sur la température. Donc on obtient des pics de plus en plus étroits, de plus en plus fins, et une conductance supprimée par blocage de Coulomb au centre des marches. Alors tout ça, c'est la limite de haute température. Donc maintenant, regardons ce qui se passe à très basse température. Alors à très basse température, on est de nouveau sauvé par le fait qu'on connaît cette fonction spectrale, ceci devient une fonction delta, et finalement la conductance ne fait intervenir de nouveau que la fonction spectrale à température nulle et fréquence nulle, celle dont on s'est servi tout à l'heure. Et on obtient cette superbe formule ici qui prédit ce que doit être la conductance en fonction directement de la charge sur le point en unité de 2 écarés sur H en utilisant la règle de somme de Friedel. Donc on ne peut pas imaginer une formule plus simple. Et pour être simple, elle est néanmoins spectaculaire puisque ce que vous dit cette formule, c'est qu'à température nulle, eh bien, la conductance en fonction de la tension de grille doit avoir une allure complètement différente de celle de ces deux pics, elle doit au contraire suivre donc sinus carré pi n sur 2, donc c'est quelque chose qui va être petit ici, monté ici et saturé au milieu du palier de charge à 2 e carré sur h, puisque delta vaut pi sur 2. Donc la prédiction de cette formule, c'est que le blocage de Coulomb doit être complètement tué par l'effet Kondo, exactement et particulièrement dans la région où, a priori, le blocage de Coulomb est le plus puissant, avec une restauration de la conductance en transmission qui est exactement de E carré sur H, le quantum de conductance par canot, puisqu'il y a deux canaux de spin, d'où le 2. Alors, quand j'ai dit prédiction, c'est une prédiction. Il n'y en a pas tant que ça en physique de la matière condensée, donc c'est quand même bien de le dire. C'est une prédiction qui a été faite en 88, simultanément, par Patrick Lee et M. Ngu à MIT, et par Glassman et Reich, encore en Union soviétique à l'époque. Donc la prédiction était celle-là, que l'effet Kondo devait restaurer une conductance parfaite, enfin une conductance 2 E carré sur H maximum, et tuer le blocage de Coulomb. Alors, à l'époque, il n'était pas possible de tester cette prédiction théorique, et il a fallu attendre 10 ans pour que l'amélioration des techniques de fabrication des points quantiques, la possibilité de fabriquer des petits points qui auront donc des énergies de charge importantes, etc., puissent finalement permettre de mettre la température Kondo dans le régime accessible à l'expérience dans ce type de device. Et c'est, je passe un peu là-dessus, c'est David Goldaber Gordon qui, 10 ans plus tard, exactement 10 ans plus tard, dans sa thèse, a été le premier, ils étaient juste sur la ligne de finish à peu près au même moment avec l'équipe de Couvenhoven, mais bon, il l'a quand même fait en premier, a démontré ce phénomène expérimentalement. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'article de Nature de Goldaber Gordon et collaborateurs, et donc ce que vous voyez là, c'est les pics de blocage de Coulomb, donc dans ce petit point ici, vous voyez ça, c'est 100 nanomètres, si je lis bien. Donc ici, vous voyez les pics de blocage de Coulomb. Ça, c'est une vallée qui obéit au comportement conventionnel. Vous voyez que quand on passe de 90 millika, qui est la courbe en trait plein, à 400 millika, qui est la courbe en trait pointillé, la conductance augmente ici, c'est-à-dire elle diminue quand on refroidit. Mais ici, c'est l'inverse. Quand on refroidit, la conductance augmente. Alors, on est loin de 2 E carré sur H, vous voyez, on est à peu près à la moitié. C'est la première manip. Très, très rapidement, ceci s'est considérablement amélioré dans les semaines qui ont suivi pour finalement donner ce genre de choses. Vous voyez, là, effectivement, on voit la restauration parfaite de la conductance dans la vallée du blocage de Coulomb. Et il y a un effet pair-impair auquel vous pouvez vous attendre, puisque cet effet ne va se produire que quand le spin est demi-entier. Donc ici, c'est le comportement conventionnel, ici, c'est l'effet Kondo, etc., etc. Donc ça, c'est quand même une très belle chose. Comment ça marche, cette affaire? Comment est-ce que fabriquer ce singulet peut permettre de restaurer une transmission? A priori, on pourrait penser que fabriquer le singulet bloque le site, et puis terminé. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a une manière de le voir qui, finalement, et simplement l'analyse en termes de fonctions d'onde dont je parlais tout à l'heure, on a vu que la fabrication du singulet a une conséquence qui est d'imposer à la fonction d'onde du fondamental un mélange avec des états de charge 0 et 2, qui sont les états virtuels qui fabriquent le couplage Kondo. Et donc le fait d'inclure dans la fonction du fondamental des états qui représentent des états de fluctuation de charge, c'est une manière de voir le fait que on peut maintenant avoir des fluctuations de charge dans la fonction d'onde du fondamental et donc permettre le passage d'électrons. Il y a une autre manière de le voir, peut-être un petit peu plus, disons, je dirais, microscopique, qui consiste à essayer d'analyser les différents processus de transition d'un électron à travers cette barrière, et on peut voir que ce sont les processus spin-flip, processus d'échange, retournement de spin, qui permettent finalement d'avoir fait passer un électron de la gauche vers la droite. Ici, ce n'est pas complètement complet, il faudrait encore faire un spin flip pour retourner ces deux spins. Donc, disons, du point de vue technique, évidemment, on peut toujours dire que la poussée du pic Kondo au niveau de Fermi, de la résonance Kondo, c'est ce qui produit une augmentation de la densité d'état et donc de la transparence de la barrière. Mais ça, je trouve que c'est une manière de voir les choses qui est un peu absconce, parce que finalement, bon, ce pic pousse, mais on ne voit pas trop la physique. Donc j'aime bien cette interprétation en particulier. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Plus grand-chose, parce qu'on est presque à la fin. Mais évidemment, ces études ont été faites de manière assez détaillée, et il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux sur l'effet Kondo dans les points quantiques et dans d'autres systèmes d'électronique moléculaire, dans les nanotubes, dans les fullerènes, etc. Et évidemment, ça va être le séminaire de Serge, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Voilà, par exemple, une FISREV Letters de Goldaber Gordon, qui a de peu suivi le papier précédent, dans lesquels on explore de manière plus précise la dépendance de la conductance à température nulle en unité de 2 E carré sur H en fonction de la tension de grille. Et vous voyez que là, ça suit bien la loi de Friedel en sinus carré pi n sur 2. Donc c'est assez satisfaisant. Voilà. Ça, c'est les TK qu'on a. Alors les ordres de grandeur dans ces systèmes, il faut quand même en parler un peu parce que c'est important. Dans les impuretés magnétiques, dans les métaux, U, c'était des électronvolts. D'accord ? C'est des énergies atomiques. Ici, dans ces devices-là, U, c'est quelques milli-EV. Gamma, c'est 0,3 milli-EV. Les températures condo, à ce moment-là, elles étaient, dans ce type de système, entre 40 millik et 3 Kelvin. Donc, on parle d'échelle d'énergie complètement différente du contexte précédent. Alors, je ne résiste pas au plaisir de montrer ça rapidement. Il y a eu des études très intéressantes et très récentes de bruit dans ce système ou dans des systèmes reliés. Alors, donc, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, là, on a calculé la conductance, mais qu'est-ce qu'on peut dire des fluctuations du courant transmis ? Donc, il y a un joli article expérimental sur ce sujet du groupe de l'ENS qui explore le bruit dans ce régime de Kondo, en fait, pour un système dans lequel on n'a pas vraiment l'effet Kondo conventionnel, SU2, mais on a une symétrie un peu plus grande, et on a plus de bruit que ce à quoi on pourrait s'attendre. Bon, je n'ai pas le temps de détailler ça. Évidemment, ce sujet de l'effet Kondo dans les nanostructures pourrait faire l'objet d'un cours entier ici au collège. Mais encore une fois, l'esprit du cours de cette année, c'est de brosser un panorama un peu général. Donc forcément, on est obligé de ne pas entrer dans les détails sur un certain nombre de sujets. Voilà, alors toujours dans l'esprit de cette remarque, il y a plein de continuations possibles de l'étude des manifestations de l'effet Kondo dans différents systèmes physiques que je n'aurai pas le temps de traiter dans le cours de cette année. J'espère qu'on y reviendra dans des cours d'années ultérieures. Il y a tous les aspects hors d'équilibre qui sont très intéressants actuellement dans ce contexte, mais aussi dans d'autres contextes, celui des atomes froids par exemple. Il y a tout un volet de la physique Kondo dont je n'ai pas eu le temps de parler du tout, qui est l'adsorption d'atomes magnétiques, cobalt par exemple, sur des surfaces métalliques, et l'exploration de la spectroscopie de ces impuretés adsorbées par des méthodes STM. Autre possibilité ouverte par les progrès de l'instrumentation. Et donc il y a toutes sortes de jeux que les gens ont menés sur ce sujet, et qui sont assez intéressantes. En voilà une que je trouve particulièrement, pas exotique, mais comment dire, flashy. Je ne sais pas à quoi elle sert, je dois vous l'avouer. Mais ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont amusés à déposer sur une surface d'or un petit complexe organométallique qui est constitué d'un atome de cobalt, donc a priori magnétique, coincé dans une matrice organique. Alors, quand l'atome de cobalt est lié à ces radicaux organiques, il perd son moment magnétique. En fait, il est simplement écranté par les orbitales atomiques de la molécule. Et donc, quand ils déposent ce truc sur la surface d'or, ils viennent avec leur pointe STM et ils voient qu'il n'y a pas de réponse Kondo. Alors, c'est très joli, ils peuvent faire un article dans Science, parce que comme ça, on voit les orbitales atomiques du complexe adsorbé, c'est très bien. Et puis alors, ce qu'ils font après, c'est qu'avec leur pointe STM, ils envoient un courant électronique fort, et puis ils cassent ces ponts organiques ici. Et évidemment, l'atome de cobalt se souvient qu'il a un moment magnétique, et tac, on voit une résonance Kondo. Donc on se sert du STM à la fois pour modifier la nature chimique du complexe, et puis pour faire des mesures. À quoi ça sert, j'en sais rien, mais enfin, c'est joli. Bon. Alors, je pense que ce dernier transparent, qui termine à peu près le cours, il illustre une remarque que j'ai trouvée il y a quelques jours dans le discours Nobel d'Anderson, que je trouve assez marrante, qui dit en gros qu'il n'y a pas d'Hamiltonien aussi simple qui ait fait violence d'une part à la littérature scientifique et d'autre part au budget des agences de financement, autant que l'Hamiltonien Kondo. Mais en fait, alors donc il attribue ça à Harry Soule, qui est donc celui qui a inventé avec Abrikosov la résonance d'Abrikosov-Soule, qu'on devrait appeler comme ça, et pas la résonance Kondo. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, le modèle d'Ising doit être un compétiteur sérieux. Voilà, alors je vous avais promis, vous voulez voir la démonstration de la règle de somme de Friedel ? Vous en avez assez. Bon, je vous avais quand même promis la règle de somme de Friedel. Donc, en deux transparents, la règle de somme de Friedel, tout est faux dans ce transparent, en gros. Mais parce que si je prenais le temps de le faire avec soin, ça serait trop long. Donc, vous pouvez aller voir les bonnes références. Mais l'esprit est là. Donc, la règle de somme de Friedel, ça se passe comme ça. Vous prenez la fonction de Green de l'orbital d'impureté. Donc, son inverse, c'est oméga moins ED plus I gamma, ça, c'est le calibre, moins la self-énergie. Quand je dis tout est faux, ce n'est pas qu'il y a des erreurs d'un facteur 2. C'est qu'en fait, je ne vous ai pas dit si ça, c'était la fonction retardée, avancée, de Feynman. Il faut faire très, très, très attention aux arguments et aux contours dans le plan complexe sur lesquels tout ça va se passer. Je ne le fais pas parce que c'est trop long. Vous pouvez voir les bonnes références à Abrikosov, Gorkov, Dialoginski, par exemple. Il y a aussi d'excellentes thèses dans lesquelles ceci est détaillé. Bref, donc ça se passe de la manière suivante. Vous prenez la dérivée du log de cette fonction, ce qui a priori est un truc un peu baroque, le log de la fonction de Green. Et donc, vous voyez, vous trouvez simplement la fonction de Green moins le produit de la fonction de Green par la dérivée de la self. Alors maintenant, on va s'amuser à intégrer cette dérivée sur un contour bien choisi. C'est là où je triche un peu. Et évidemment, le terme de droite, qui est juste l'intégrale de la fonction de Green, va nous donner la charge sur l'impureté. Donc ce terme-là, il est facile. Ce terme-là, il est facile aussi parce que c'est une dérivée tout intégrée. Et donc ça me donne la dérivée, la différence du log à oméga égale 0 et oméga tend vers moins l'infini. Et ça, c'est essentiellement le déphasage, quand on fait les choses avec soin. Donc on voit qu'on a relié le déphasage à gauche à la charge sur l'impureté à droite, mais qui reste un terme méchant qui est lui, là. A priori, on ne sait pas ce que c'est que ce terme. Et alors, c'est là qu'arrive la beauté de la chose. En fait, on peut montrer que dans ce cas-là, et dans beaucoup de cas, mais pas toujours, ce terme est nul. Alors, voilà comment ça marche. Pour montrer que ce terme est nul, on utilise une chose affreuse, mais très utile, que j'introduirai peut-être au cours 4, qui s'appelle la fonctionnelle de Luttinger-Ward, que les amis du problème à n-corps connaissent bien, qui permet d'exprimer la self-énergie comme une dérivée fonctionnelle d'une certaine fonctionnelle de la fonction de Green par rapport à G. Et alors après, comme ça, on s'aperçoit que ce terme, après une intégration par partie, c'est simplement le changement de cette fonctionnelle dans un changement global de toutes les fréquences. Mais cette fonctionnelle, c'est une sorte de fonctionnelle d'énergie, donc elle ne peut pas dépendre d'un changement global de toutes les fréquences, et donc ce terme doit être zéro. Alors, pour ceux qui ont l'esprit de physique théorique, c'est une sorte d'identité de Ward qui est liée au shift de toutes les fréquences. Et comme toute identité de Ward, elle peut avoir des anomalies. Donc, on peut imaginer des situations un peu exotiques dans lesquelles ce terme serait non nul. Et ça existe. J'en ai rencontré, pour ceux que ça intéresse. Mais enfin, disons, dans ce cas standard et dans beaucoup d'autres cas, ce terme est nul. Et voilà comment on trouve la règle de somme de Friedel. Bon, voilà, c'était les deux minutes de problème à n-corps du cours. Donc, on fait une pause de 20 minutes et puis on reprend avec le séminaire de Serge Florence.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.